Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Guillaume.
Salut Charline.
Alors aujourd'hui on reçoit un écrivain, Akli Tadjer.
Ah oui, c'est un écrivain arabe.
Non, c'est un écrivain français.
Ah parce qu'il a un nom de...
Un nom de quoi?
Un nom d'écrivain, je voulais dire. Non mais t'inquiète Charline, de toute façon j'ai un très bon ami.
Un très bon ami quoi?
Un très bon ami écrivain. C'est fou, aujourd'hui comme les écrivains ils sont stigmatisés.
Ouais. Salut les amis.
Ah, salut Clara.
Bon bah c'est parti pour la bien-pensance islamo-gauchiste aujourd'hui, si j'ai bien compris.
Clara, enfin qu'est-ce qui t'arrive?
Regarde, on reçoit un écrivain franco-algérien.
Un écrivain arabe.
Guillaume.
Quoi? Ah oui.
Qui s'interroge sur le racisme et qui va l'expliquer dans les écoles. Ouais. Ça va là? C'est assez de gauche pour vous?
C'est plus compliqué que ça, Clara, pardon. Akli Tadjer, il est allé s'expliquer avec des lycéens qui refusaient d'étudier son roman sous prétexte qu'il y avait des mots d'arabe.
Ah, ça me rappelle une émission sur France Inter avec des Belges là. Ils disent beaucoup de mots en belge. C'est compliqué.
C'est malin. Et c'est courageux ce qu'il a fait, Akli Tadjer. Se prendre le racisme en pleine face comme ça.
Oh, bah, c'est comme moi. Je me prends toujours le progressisme en pleine face. Et je trie mes déchets par-ci. Et je suis végétarien par-là. Et je m'occupe des gueux par-ci.
Et je roule en 4x4 diesel sur le périph', et je mets mon pull en cachemire sur les épaules.
Quoi? On a tous quelque chose de la bourgeoisie du 7e.
Non, Clara, il y a tout de même une différence entre le racisme et le progressisme. Oui. Désolée, le racisme c'est mal.
Oui, voilà. Et nous on invite un écrivain arabe, parce qu'on n'est pas raciste.
Bonjour la France Inter. Bonjour la bien-pensance. Bienvenue dans la start-up, cet endroit où l'actualité est sacrifiée sur l'autel de la blague. Le racisme se niche jusque sur les fresques de l'Assemblée nationale. Une œuvre qui orne les murs du Palais Bourbon depuis près de 30 ans fait aujourd'hui l'objet d'une polémique. Comment juger si une œuvre est raciste ou si elle dénonce le racisme?
On m'a déjà traité de nègre, on m'a déjà traité de tante, mais jamais de français.
Aujourd'hui sont jugés deux hommes accusés de s'être fait passer pour des victimes lors des attentats du 13 novembre 2015. Ils risquent 7 ans de prison. Ah bah oui, mais ça coûte cher l'indécence.
Hey, qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas rose dans le métier de victime. C'est trop facile.
L'écrivain public est un métier disparu, sauf que quand ils existent, aujourd'hui ils sont submergés. Car l'analphabétisme existe toujours et surtout il est amplifié par l'analphabétisme numérique, où des tas de gens sont perdus dans les procédures administratives en ligne.
Les vacances, c'est fait pour se promener en slip, c'est pas fait pour lire des bouquins.
Voici celle dont vous avez entendu la charmante voix. Clara Dupont-Monod.
Eh bien oui, Charline, bonjour, puisqu'Alex Vizorek n'est toujours pas remis de sa syphilis, on l'embrasse, il est en cours de traitement. Alors pour le remplacer, une belle équipe soudée comme une salle de prof, la prof d'EPS, tendance fitness un poil sadique, mais si les enfants, les espaliers sans les mains, c'est fastoche. Bonjour Constance.
Bonjour.
Vous nous allez nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais essayer d'ouvrir la France.
D'accord.
En deux? De l'ouvrir, de l'ouverture.
C'est ça. Super, un programme du PS, donc. Le prof d'histoire, tendance Robespierre intégriste, les enfants, brûlez vos parents s'ils ont de l'argent.
Oui.
C'est Guillaume Meurice, bonjour
moi.
Guillaume.
C'est moi, bonjour à tous. Je vais vous parler d'éducation justement aujourd'hui, parce que Jean-Michel Blanquer relance le débat sur les sanctions aux parents pour les enfants turbulents, mais les Français veulent plus.
La punition physique immédiate.
Ok, calme-toi François Solto.
La prof de français, tendance, aucun grand texte ne s'est fait sans grand alcool. Donc les enfants, buvez, écrivez ensuite. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Clara, comme c'est aimable.
Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui?
De savoir qui est raciste. Ou pas.
Programme du PS bis.
Voici celui qui va renverser la table de l'Open Space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Akli Tadjer.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Par Jupiter.
C'est vous l'écrivain arabe?
Mais non, il n'est pas arabe.
Mais
justement,
si,
pareil.
Qui écrit des romans pas français. Qui
t'aide. D'abord, il est kabyle.
Il est kabyle. Il y a eu des fake news pendant la conf de René. La honte.
Akli Tadjer, votre troisième roman, vous en avez écrit beaucoup. Vous avez écrit des livres, des essais, des romans. Le troisième, il s'appelle Le porteur de cartable et il est étudié dans pas mal d'écoles. Il a même été adapté à l'écran. Il parle de la guerre d'Algérie à travers le regard de deux enfants, notamment. Et récemment, il y a une classe de lycée dans le nord de la France qui a refusé de lire le roman imposé par le professeur, ce roman, Le porteur de cartable, car, on dit les élèves, l'auteur n'est pas français et il y a des mots d'arabe. Alors, vous êtes né en France, à Clitadjer. Vous y vivez depuis plus longtemps que les parents de ces lycéens. Les trois mots d'arabe du livre, c'est couscous, tagine et harissa, dans le porteur de cartable.
Scandale, scandale.
Ouais, scandale. L'histoire a été médiatisée parce que vous avez eu un échange de mails avec le professeur. Vous avez fini par rencontrer cette classe. Et vous racontez cet épisode, comment ça s'est passé, comment vous êtes entré en lien avec l'école, comment vous avez rencontré ces jeunes. Tout ça dans un essai qui s'intitule « Qui n'est pas raciste ici ?», publié chez Jean-Claude Lattès. Alors, à Clitadjer, pourquoi est-ce que vous avez voulu poursuivre cet épisode, cette expérience, par un livre ?
Eh bien, donc j'ai rencontré ces lycéens. Ils ont quand même 17, ils avaient 17 ans, donc ils ont 18 ans maintenant, donc ils votent. C'est pour ça que je suis allé. Si ça avait été des gamins, je ne serais pas allé. J'aurais dit c'est l'affaire des parents et tout, mais là je me suis dit...
Des lycéens, bac pro, c'est ça, hein ?
Bac pro, terminale... Ouais. Et donc, j'ai rencontré avec plein de questions, plein de questionnements aussi sur eux. Et puis, je me suis dit que ça pouvait pas être que des paroles, quoi. Il fallait que ce soit écrit noir sur blanc. Qu'il en reste une trace et puis que ça pourrait peut-être servir à d'autres lycéens. Et puis, ça m'a servi à moi-même. C'était une sorte de thérapie aussi, hein, parce que je suis pas tout le temps confronté à des jeunes gens qui peuvent être hostiles, quoi. C'est pas tous les jours qu'on les rencontre.
Mais justement, votre roman, Le Porteur de Cartable, il a été écrit en 2002.
Oui.
Il a beaucoup tourné dans les écoles, vous aussi. Pourquoi maintenant, ça vous était jamais arrivé, cette histoire, avant?
Non, j'ai...
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Pourquoi maintenant?
Bah, à mon avis, le climat y est un peu quand même. Hein. En plus, ça se situe dans une région particulière où Front National, le Rassemblement National fait des cartons, hein, faut raconter. Donc, et puis après, tout le monde est entraîné. Et puis voilà, ça se passe quand même dans une province, ce que j'appelle les provinces éteintes, où il se passe rien et où les jeunes fantasment sur l'étranger parce qu'en fait, leur mal-être, comme ils n'ont pas de réponse à leur mal-être, et c'est vieux comme le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ils accusent l'autre, celui qui est différent, même si celui qui est différent, il ne le voit jamais. Parce qu'un étranger, un immigré, qu'est-ce qu'il va aller faire dans un endroit où il n'y a pas de travail? Et c'est ça. Non, mais c'est vrai. Il ne va pas aller arracher des patates, se faire des frites du matin au soir, et puis après je me casse. Il n'a rien à faire là, quoi. À la limite, il va aller à Calais un peu plus loin, mais il ne va pas aller dans les champs de betteraves. Et donc, voilà, je me suis dit que...
Ça veut dire que ces jeunes sont sous l'emprise de la propagande du Front National qui fonctionne?
Ben en fait, déjà, bon, faut savoir que le racisme, comme partout, il commence dans les maisons. Mmh. Ensuite, avant, c'était dans les bistrots du coin. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux, etc. Et vas-y, que je te casse de l'arabe, du noir, du blanc, du jaune, du vert, tout ce qu'il y a à casser, quoi. Mmh. Et donc, quand il y a une enseignante qui décide un jour de leur faire étudier ce texte, et qui voit Clitadjer... Bon, déjà, ça...
Si vous étiez appelé Corinne, c'était mieux pas...
Ça aurait été plus simple, hein, Corinne. Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est très révélateur. Et puis, c'est même pas moi, ma personne, finalement, qui disent que je suis pas français et tout. Je vous cache pas que j'en ai rien à foutre. Mais ce qui m'a le plus dérangé, d'abord, c'était leur niveau de culture, nul expert, hein. Ouais. Ils savaient pas que ils disaient que la guerre d'Algérie, ça concernait pas la France. Même si ça ne concerne pas la France, qui ça concerne. Et puis, en fait, il disait aussi que... D'abord, il ne savait pas que l'Algérie, c'était une ancienne colonie française. Alors là, j'en ai vu des cancres, mais à ce niveau-là, c'est... Mais c'est, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on était en pleine période de la crise de Zemmour, là, quand il avait dit à la...
Corinne,
Et il y a un de ses élèves qui a acheté le livre au prétexte qu'il y avait un personnage qui s'appelle Messaoud et que pour lui c'était insupportable de le lire. C'est là que je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Pas pour leur faire la morale, mais pour leur dire mes convictions.
Et vous ressortez de cette expérience avec de l'optimisme. On va pas spoiler la fin du livre, mais
Juliette en touchera un mot dans sa chronique.
Il y a des discussions avec les élèves, évidemment, mais vous, personnellement, est-ce que vous ressortez de cette expérience avec un peu d'optimisme?
Bah, moi, je suis toujours un peu optimiste, hein, parfois bêtement, mais je me suis dit, de toute façon, il y en a que, c'est sûr, indécrottables, ils vont jamais bouger. Mais il y en a d'autres qui étaient racistes sans le savoir vraiment, ils répétaient les âneries des parents. Il y en a un à qui j'ai demandé, mais il y a des étrangers dans ton village? Il me dit non. Bah, alors je lui dis, pourquoi t'es raciste? Il me dit, tu sais, vous le savez, parce que un peu de distance quand même. Il me dit, vous savez, mon père n'aimait pas les Allemands, mon grand-père n'aimait pas les Allemands, mon père n'aime pas les Noirs et les Arabes. Bah, moi, je suis. Hein.
Ouais.
Ouais, des gens là.
On dirait une chronique de Guillaume Meurice.
C'est vrai.
À qui Thatcher vous expliquez aussi dans l'essai, mais on va y revenir tout à l'heure, notamment avec Juliette Arnaud, que bah, certains dans le lycée disent oulala, attention, pas de vagues. Ils avaient peur de la médiatisation, que tout ça sorte. Donc ça, ça raconte vraiment notre société aujourd'hui parce qu'il y a les crispations de l'éducation nationale, il y a la rencontre avec ces jeunes. Akli Tadjer, qui n'est pas raciste ici ? C'est donc cet essai publié chez Jean-Claude Lattès qui se lit un peu aussi comme une pièce de théâtre ou un film qui se déroule. On est entre l'essai et les images, quoi. Voilà. Il est avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. Flash, c'est minuit qu'on aime tellement sur cette antenne. Il est 17h20 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Notre invité, c'est l'écrivain Akli Tadjer qui publie Qui n'est pas raciste ici, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Et Juliette Arnaud vient de lever la main. Mais on ne doutait pas.
Seule, hein, c'est la seule à avoir levé la main autour de la table. Il y a beaucoup de jeunes
qui comprend la question.
Même moi, j'ai pas levé la main.
Et à part Juliette Arnaud, qu'y a-t-il pour rattraper le coup, Clara Dupont-Mono?
On a, pour relever le niveau, on a Constance.
Très raciste, Constance. Très raciste.
Guillaume Meurice, on ne sait pas, mais bon, ouais. Et il est là en tout cas. Ouais. Et Juliette Arnaud.
And some news.
Je voulais sauver des vies. On m'a accusé de vouloir remplir des caisses.
Le journal de presque 17h17.
Il en manquait une pilette sort.
Tout à fait ça.
Alors.
Et on commence avec les titres.
On parlera de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National.
Oui, la tête de Ken et l'héritage de Barbie, Close Barbie, évidemment.
On parlera également de Benoît Hamon.
Oui, le charisme de Jospin, l'héritage de Marx, Groucho Marx, évidemment.
Il y aura des brèves.
Oui, d'Alex Vizorek, le visage de Hugh Grant et l'héritage d'Adams.
Brian Adams?
Non, Kev Adams.
Ah oui, on est fait.
On commence donc avec Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes, qui était interrogé sur CNews au sujet de la sécurité aérienne.
Le PNR, qui permettait le partage de données sur les passagers aériens, pourquoi est-ce que vous avez voté contre ?
Parce que les terroristes ne prennent pas l'avion, madame.
Et non, on se rappelle tous que le 11 septembre 2001, les terroristes avaient jeté leur deltaplane sur le World Trade Center. Terrible, terrible.
On se souvient aussi de l'attentat de Lockerbie en Écosse. Oui. Là, c'est en Montgolfière,
non,
je crois.
Non, c'était en Vélib. En Vélib, oui. Soyons précis.
Soyons aussi précis que Jordan
Bardella. Oui, d'ailleurs, on continue avec Jordan, qui est tellement en grande forme cette fois-ci sur les éoliennes.
Voilà, parce que ça fait énormément de bruit, parce que ça crée une pollution sonore
odeurs visuels, une pollution pour la santé aussi, parce que les ondes qui sont dégagées sont extrêmement nocives.
Et oui, les ondes émises par les éoliennes sont nocives, hein, on le sait depuis la très sérieuse enquête de la Donald Trump Academy.
Oui, cette fameuse académie qui nous avait appris que les Mexicains mangent leurs enfants avec du tabasco.
Oui, exactement, que la terre est plate, hein, comme un ballon de rugby.
Oui, c'est du sérieux. Sérieux. Européenne encore, il manque 600 000 euros à Benoît Hamon pour financer sa campagne.
Et si chacun de ses électeurs pouvait donc donner 200 000 euros, eh ben, ça ferait le compte.
Ouais, on a le compte. Pognon toujours, Carlos Ghosn a diffusé une vidéo où il clame son innocence.
Oui, une vidéo très émouvante, je l'ai vue. On voit cet homme vêtu d'une peau de bête dans la neige qui déclare la guerre.
Non, attendez, parce que vous êtes trompé, je crois.
Quoi?
Vous avez vu où est la vidéo?
Sur OCS, c'est l'équivalent de Netflix, quoi.
Mais non, mais vous confondez avec Game of Thrones.
Ah, d'accord. Bah oui, je me disais aussi. Et donc, le nain, c'est pas un concessionnaire Fuego.
Bah non.
D'accord. Parce qu'il disait à un moment donné, Juan Culas is coming.
Bah non, pas du tout. Bon, allez, ça va, laissez tomber.
On laisse tomber. Ok, alors, justice toujours.
Oui, voilà. Dans l'affaire Geneviève Leguet, cette septuagénaire blessée par des policiers à Nice, on a appris grâce à Mediapart que la personne chargée de l'enquête, c'est la femme du policier suspecté.
Voilà, mais alors rassurez-vous, c'est le fils du policier qui est chargé de recueillir les preuves.
Oh, bah ça va ça alors va. J'imagine qu'il y aura une contre-enquête.
Oui, il y aura une contre-enquête, c'est son chien qui l'a
fait. Oh, bah ouais, tout va bien
tout
alors.
Tout va bien en France, alors, sauf pour les amateurs de pastis.
Ah oui, car son prix a augmenté de 7% depuis la loi alimentation.
Jean Lassalle dénonce un complot contre lui et déclare, je cite...
Ce qui signifie...
Je sais pas, je suis pas bilingue en Jean Lassalle, je sais rien du tout.
Très bien. Drogue toujours, oui. Donc selon une étude espagnole à Madrid, 75% du cannabis vendu contient des matières fécales.
Ouais, jamais le shit n'aura aussi bien porté son nom.
Algérie, Abdelkader Ben Salah a été nommé président par intérim pour 90 jours. Mmh. Il a 76 ans.
Oui, Bouteflika le surnommait le petit jeune.
Spectacle toujours.
Oui, Gad Elmaleh était invité ce matin sur Europe 1 et Nikos lui a demandé...
Qui vous a inspiré dans ce métier et notamment aux États-Unis pour ce registre du stand-up?
Beaucoup de gens.
Tu m'étonnes. Pour lui, l'observation, c'est essentiellement d'observer les humoristes américains.
Média toujours, la rédaction numérique d'Europe 1 s'est mise en grève aujourd'hui.
Oui, juste après la déclaration de Gad Elmaleh, je pense. Mais c'est vrai qu'on peut dire que Nicolas Sarkozy avait raison. Hein.
Ah bon, pourquoi?
Quand il y a une grève en France, personne s'en aperçoit.
Oui, enfin sur Europe 1, même quand il bosse, il n'y a personne s'en aperçoit.
Oh là là, elle est méchante. Allez, télévision à présent.
Tony Mazzari, un acteur des Mystères de l'amour, a été écarté de la fiction car il a été condamné pour exhibition sexuelle. Il aurait montré son sexe à deux préadolescents de 12 ans.
Ouais, le mystère de l'amour, c'est quand tu écoutes trop Jean-Luc Lahaye.
On termine avec une brève.
Oui, Bretagne, venue au secours de son ami ivre accidenté, il plante sa voiture. Comme quoi, il n'y a pas que l'intention qui compte, il y a aussi le taux d'alcoolémie.
Merci Guillaume Meurice.
Qu'est-ce qu'on est bien informé à présent.
Exactement, et c'est là à Clitadjia qu'on se rend compte à quel point la France va bien.
Oui,
va bien. Et donc continuons sur cette lancée positive avec ce premier sujet. Clitadjer, écrivain, le porteur de cartable, c'est votre roman qui a causé un peu de remous dans un lycée dans le nord de la France. Et vous en tirez un ouvrage qui s'appelle « Qui n'est pas raciste ici ?» paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
Je crois que Clara Dupont-Mono est restée bloquée à l'imitation de Jean Lassalle. Enfin, on l'a perdu.
Très bien. Alors revenez avec nous, si vous voulez m'aider, Clara, pour ce sujet. Une fresque qui décore les murs de l'Assemblée nationale est jugée raciste dans une tribune publiée dans l'Obs. Cette œuvre, elle est exposée depuis 91 au Palais Bourbon. Elle est signée de l'artiste Hervé Di Rosa, qui représente l'abolition de l'esclavage par un personnage noir, aux grosses lèvres rouges, aux grandes dents blanches, aux yeux exorbités, à mi-chemin entre Banania et Tintin au Congo, nous dit cette tribune.
Il faut te méfier des Blancs, surtout les Français. Les Français sont mauvais et bêtes. Je sais de quoi je parle. Quand j'étais au 3e RIMA, toute ma carrière, ils m'ont opprimé. Si je n'avais pas été noir, j'aurais fini général et pas adjudant. Tu sais que les Français fabriquent des desserts qu'ils appellent les têtes de nègre.
Mais non, papa, ça n'existe plus, ça a été interdit.
Je suis sûr que ça existe encore, ils adorent ça.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? À Clitadjer, donc vous publiez Qui n'est pas raciste ici? Eh bien, cette fresque, alors d'abord, la tribune, elle a été écrite par la réalisatrice Memfatou Niang et l'écrivain Julien Suodo, paru dans l'Obs. Cette fresque, dont il dénonce le racisme, elle est exposé au Palais Bourbon devant tous nos députés, mais c'est vrai que comme le dit la tribune, ils ne brillent pas par leur diversité, hein. Mais elle est là depuis 91 et on se rend compte aujourd'hui avec cette tribune que peut-être il y a du racisme dans cette œuvre. Chacun jugera, mais est-ce que notre époque est à une telle vigilance extrême que même dans une œuvre, à l'Assemblée nationale, il y a des gens pour se dire est-ce que c'est une œuvre raciste ou est-ce qu'elle dénonce le racisme?
Bah, apparemment, déjà, les députés n'ont pas vu qu'elle était raciste. Peut-être qu'ils l'ont même pas vu. Peut-être qu'ils sont passés devant 50 fois. Ils ont dû croire que c'était une nouvelle pub pour Banania ou un truc comme ça.
Alors, c'est donc, une œuvre, on pourrait devant. Dire, de pop voilà. art qui joue certainement sur voilà. le cliché. C'est-à-dire le cliché, oui, du noir Banania avec les grosses lèvres voilà, rouges. Voilà. Enfin, on est dans l'exagération.
Comme toute l'œuvre de Hervé Di Rosa, hein, qui a toujours fait des visages comme ça très outranciers. Et comme aussi souvent, quand même, toute cette vague, effectivement, de renaissance du pop figuratif. Qui compte Rémi Blanchard, Héros, etc., mais qui sont à chaque fois volontairement un petit peu excessifs.
Mais on peut y voir du racisme.
Bah, c'est-à-dire qu'à mon avis, le peintre, il est un peu resté à autant n'importe le vent, quoi. Voilà, à mon avis, il est resté là. Après, moi, je respecte sa façon de voir les gens. Mais en même temps, moi, je suis pas noir. Si j'étais noir, je pourrais être choqué, éventuellement. Mm-hmm. Maintenant, moi, je regarde ça comme ça. Et maintenant, de là à dire... ouais, il faut interdire. Non, non, faut pas mais là, interdire.
Est-ce qu'une œuvre qui dénonce le racisme, est-ce qu'elle peut jouer sur les clichés quand même ou pas? Souvent, dans l'humour ou dans l'art, on peut jouer sur le cliché. Ouais. Juliette Arnaud?
Non, mais moi, je suis pas noire non plus. Et je.
Ah, non. Oui, d'accord. Non.
Alors ça, breaking news. Là, je dis les choses aujourd'hui. Mais je conçois très bien que, surtout que cette fresque, elle est faite pour célébrer la fin de l'esclavage. Et faire une représentation qui est toujours la même représentation des Noirs pour célébrer un truc qui est quelque chose d'extrêmement grave, qui fait partie de l'histoire de France, je conçois que ça y est, en 2019, les Noirs en aient plein les sabots, pour parler proprement.
Bah, en fait, moi qui vis en banlieue, en fait, il se trouve que...
À Levallois-Perret, on rappelle.
Oui, vraiment, super, à Levallois-Perret. Pas vraiment. Mais bon, moi, j'en vois souvent des graphes qui ont un peu cette allure-là, quoi, ce style et tout. Et c'est... Voilà, ce sont les jeunes de banlieue qui graffent ça. Et je crois pas que c'est la brigade des graffeurs de Marine Le Pen qui fait ça la nuit, quoi.
On manque de caricatures de blancs, quand même, non?
Ah, ça.
Bah, le jour où il y aura des grosses caricatures, mais à la grosse louche de blanc, ça va peut-être équilibrer un peu les choses. Je fais appel à votre imagination. Hein.
Juste une petite phrase d'Hervé Di Rosa. Il a quand même dit ceci. Il a dit « Ça me désole que ça vienne de gens que je considère de mon côté ». Et il soulève quelque chose qui est intéressant, qui est aussi quand même que lui, il dit en gros que la censure, contre toute attente, elle peut venir aussi des antiracistes.
Et moi, je trouve ça nul. Hein,
Donc, on se retrouve confronté à une situation complètement à l'envers.
Qui sont les gens de son côté?
Non, ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'il était le premier à dénoncer le racisme et qu'on pouvait pas le taxer de racisme justement.
Manifestement, oui.
Ouais, enfin, je trouve que
ça a fait l'effet inverse. À vrai dire.
Comme pour toute œuvre, en réalité, chacun juge, mais on peut comprendre que...
Et surtout qu'il ne s'agit pas de taxer Hervé Di Rosa, de dire que Hervé Di Rosa est raciste, je ne le pense absolument pas. Je pense qu'il s'est, potentiellement, il s'est planté.
Et puis après, il faut demander qui a commandé ce tableau, parce que lui, il peint une œuvre, il imagine quelque chose. Après, il y a des gens qui disent, pour représenter la fin de l'esclavage, c'est emblématique.
Ce qui choque aussi, c'est que ce soit à l'intérieur de l'Assemblée nationale.
Mais s'il avait été noir, est-ce que ça aurait été raciste?
Oui, c'est ça. Il a raison. Ouais. Et il se trouve qu'il a toujours fait des personnages avec des grosses bouches depuis toujours. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose où on marche sur la tête.
Non, mais moi, ça ne me gêne pas. Moi, je lui dis ça ne me gêne pas, parce qu'à ce moment-là, il va falloir remettre les orientalistes au grenier. Et puis moi, je vais demander que le zouave du pont de l'Alma, on le déboulonne, parce que quand il y a une crue, il a de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis après, plus haut, jusqu'aux baloches, quoi. Ça n'en finit plus, quoi.
Donc voilà pour cette tribune écrite donc, par la réalisatrice Mam Fatou Niang et l'écrivain Julien Souhaudou. Donc on s'est rendu compte qu'eux enseignaient aussi ou écrivaient, travaillaient aux États-Unis et que sans doute cet œil-là est peut-être plus aiguisé en venant du monde anglo-saxon sur ce sujet. Voilà, je vous renvoie notamment à l'Obs, à cette tribune ou aux divers articles. Comme ça vous permettra de voir cette œuvre. Ce qui est toujours mieux, évidemment. Là, on est à la radio, donc on ne peut pas. On aimerait bien, mais on ne peut pas. 17h31. Vous pouvez la voir sur franceinter.fr si vous voulez, c'est Constance.
Ah.
Oui.
Hier, lundi 8 avril, c'était la journée internationale des Roms. Non pas des Roms, l'alcool de pirate qui fait zouker et qui fait pousser les cheveux à l'intérieur du crâne le lendemain de la soirée. Non, ça m'aurait bien arrangé. Roms arrangés.
Point
de plus pour entrer au paradis de la blague. Non, le thème de cette journée mondiale, c'est les Roms, les gens du voyage. Bohémiens, tziganes, gitans, manouches, Roms, Sinti, Romanichel. Moi, dans le petit village d'où je viens, on disait les voleurs de poules, ce qui n'était pas très gentil. Mais dans les petits villages, on utilise beaucoup de raccourcis. Et c'est pas parce qu'on est plus con ou plus mauvais qu'en ville, c'est parce qu'en fait, on ne connaît pas. On abordera d'ailleurs ce qu'on disait des personnes handicapées noires et homosexuelles une autre fois, hein, parce que moi j'ai un petit peu envie de rester sur France Inter. Aujourd'hui le sujet donc c'est les Roms. Les seuls contacts qu'on avait avec les manouches dans mon village, c'était les forains qui passaient avec leur manège sur la place une fois par an. Et à chaque fois, il y avait bagarre le soir parce qu'il y avait des histoires de filles, de bière et de mobilette. Enfin, c'est la Picardie, quoi. Et parce qu'il y avait une pouca, bah, fallait raquer. Et du coup, il y avait Marave et les Schmitt y débarquaient. T'as vu comment je parle le gitan? Eh ouais, une vraie petite paya qui parle le gitan. Eh ouais, Gadjo, le gitan, c'est comme l'arabe, en fait. On dit qu'on se mélange pas vraiment, que ça marche pas vraiment, mais dans le langage, de plus en plus, ça se mélange, voilà. J'ai déjà mis des mots gitans passés dans le langage courant dans cette chronique, je vais peut-être pas en mettre en arabe, sinon il va y avoir des problèmes avec les indécrottables gaulois pure souche et qui auront un chouille le seum. Bim ! Ah bah mince, c'est fait, désolé. J'ai appris qu'on disait les Roms et pas les gens du voyage parce que déjà ils sont majoritairement devenus sédentaires, mais aussi parce que les gens du voyage c'est réducteur, c'est comme pour dire d'une personne asiatique c'est un chinois. C'est un peu réducteur. T'as vu comment je me suis renseignée pour écrire ma chronique, hein ? On dirait une vraie intellectuelle avec un petit peu moins de moustache, voilà. Je trouve que toute la difficulté de ce sujet, c'est de réussir à dire des choses constructives sans être ni raciste ni démago. Parce que la limite est vraiment pas évidente. Il faudrait juste un soutien joyeux pour appuyer mes propos. Hey. Le terme Rom veut dire homme accompli, un nom revendiqué par cette communauté qui semble vouloir prouver au reste du monde que leur minorité est humaine. En même temps, après avoir été exterminés à 85% pour les Sinti dans les camps nazis, chassés et persécutés par Franco en Espagne ou traités comme des sous-merdes et persécutés à peu près partout dans le monde, on peut comprendre qu'il reste une petite trace de méfiance, une envie de dire « Ok les mecs, regardez, on est quand même un petit peu des gens, pouce !» En préparant cette chronique, à chaque fois que je parlais autour de moi des Roms, les gens me disaient souvent « voleurs, trafiquants d'enfants, moignons, saletés ». Donc je me suis renseignée. Et apparemment, il n'y a pas de gène de voleur ou de crasseux chez les Roms. Pas plus qu'il y a de gène pour réussir les créneaux chez les hommes plus que chez les femmes. Non, ce serait plutôt une histoire de contexte, parce que survivre comme des rats dans des bidonvilles collés au périph', ça n'aide personne ni à s'intégrer, ni à sentir bon la vanille. On a beau se rassurer en se disant qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, bah moi je crois que c'est un petit peu nous qui le faisons et qui le fabriquons le monde tous les jours. Et il y a un domaine où ça fonctionne, c'est sur la planète universelle artistique, où nous réussissons à faire de nos différences une force. Quand un humain danse, chante ou joue de la musique, je vois un humain. À part Gad Elmaleh, je vois un humain qui copie un autre humain, mais bon, ça c'est un autre problème. Allez, venez, on se parle en musique et on arrête de nous enfermer dans des cases. On n'est pas des mots fléchés, merde.
Merci Constance. J'ai l'impression qu'on est contre le racisme dans cette émission.
Eh ben j'en ai peur.
On est obligé.
Ben, on est vraiment, on va devenir très vite asbine, hein, je vous préviens tout de suite.
Nul.
Hein.
C'est nul, ouais. C'est nul le racisme.
L'écrivain Akli Tadjer est en notre compagnie jusqu'à 18h. Oui, 18h. Bien fait tout de même les choses. It's been a long, gray winter strike. It's been hard trying to make it on your own. Oh, honey, I know. And came the sweetest of summertime. We've been trying to get our shit together and make it out alright. Why do we always love the crazy ones? Always love the crazy ones. Why do we always love the crazy ones? Always love the crazy ones. It's been a slow dive into the black. It's been hard trying to make it on your own. Oh, honey, I know. It's been a long time up to the light. We've been trying to get our shit together and make it out. Why do we always love the crazy ones? Always love the crazy ones. Why do we always love the crazy ones? Always love the crazy ones. Feeling hazy like you're never gonna make it on your own. I was just about to lose my temper. Hard to try to make it on your own.
Age Burns Crazy sur France Inter avec l'écrivain Akli Tadjer qui publie Qui n'est pas raciste ici aux éditions Jean-Claude Lattès. Juliette va y revenir tout à l'heure. Akli Tadjer, l'auteur du Porteur de cartable qui a fait quelques remous dans un lycée car les élèves n'ont pas voulu le lire parce que l'écrivain est arabe alors qu'en fait il est français. Oh là là. D'ailleurs, il y a un passage, la première fois Akli Tadjer, la première fois qu'on parle de nous dans un livre, on est très flattés. Ouais. Vous dites France Inter a fait un sketch sur le sujet, le cercle des racistes réactionnaires disparus. Oui. Il arrange à vous. On est tellement content. Hormis l'actualité, Clara Dupont-Mono de Marianne, la presse littéraire était aux abonnés absents. Ouais. Eh bien, parlons-en aujourd'hui avec Akli Tadjer. Et à côté de vous, vous connaissez l'émission, il y a Guillaume Maurice.
Oui. Je vais vous parler d'éducation aujourd'hui parce que le ministre Blanquer a eu une bonne idée, encore une. Jean-Mimi, en ce moment, il est chaud. Hein. Il est chaud comme Gad Elmaleh au salon de la traduction.
Allez,
encore une petite. Alors après Parcoursup, les chorales à l'école, Jean-Michel veut sanctionner financièrement les parents d'enfants violents. Autant dire que papa et maman Benalla sont en ligne avec CTLM depuis ce matin. En tout cas, c'est vraiment une idée sublime hein, de Jean-Mimi. Le Laurent Wauquiez version calvitie, comme il convient de l'appeler désormais. Une idée qui fait écho dans l'opinion du peuple de France que j'ai rencontré ce matin. L'éducation, c'est un truc qui passionne les Français. C'est vrai que tout le monde a été à l'école, sauf les CRS et les lecteurs de Marianne, évidemment. Mais je dirais presque tout le monde, on va dire. On commence avec une dame qui est plutôt contre le fait de sanctionner les parents.
Je pense que sanctionner financièrement des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça sert à rien, ils comprennent rien. Mais par contre, faire bosser les gamins sur les dégâts qu'ils ont faits, oui, ça je suis d'accord.
Mais les parents, non.
Les parents, bah, ils seront obligés de suivre et de faire en sorte que leurs gamins réparent leurs conneries. Sinon, ils seront sanctionnés par une amende, mais pas leur retirer de l'argent pour vivre.
Oui, mais si c'est une amende, est-ce qu'on ne leur retire pas de l'argent finalement ?
Si.
Voilà, donc elle est contre... et contre les sanctions pour les parents, sauf quand elle est pour les sanctions pour les parents. Hein, si cette dame est juge, il faudra faire gaffe. Vous êtes acquitté, vous dormirez ce soir en prison. Hein, retrouvez-la en couverture du mensuel Ascenseur émotionnel magazine. Avec une très belle interview cette semaine de Juliette Arnault qui raconte le jour où elle a appris que la chanson d'Étienne Dao, c'était pas Weekend au Rhum, mais Weekend à Rome. Hein, ça va être très beau témoignage, Juliette. Bref, avançons, parce que j'ai également bien sûr rencontré des gens qui étaient pour ce dispositif. Même plus.
Moi, je voudrais qu'ils donnent une punition physique, du coup de règle sur les fesses.
Attendez, pour les parents ou pour les enfants ?
Pour les enfants.
Ah.
Et pour les parents, alors là, on supprime tout. Toutes les allocations, tout le bazar. Comme ça, ils comprendront à vivre.
Voilà, ils comprendront à vivre. Hein. Heureusement qu'on ne taxe pas les expressions qui n'existent pas. Parce que ce monsieur, voilà, il aurait gueulé. Mais voilà la bonne idée, son claque sur le cul, suppression des allocs. Là, on est sur un classique. Là, c'est la margarita de la pédagogie. Ah, après, vous pouvez rajouter les ingrédients, enfermés dans le placard, menace de leur présenter Jean-Marc Morandini. Enfin, tout ce que vous retrouvez voilà, dans la formidable méthode de l'Institut Véronique Courgeot. Continuons avec ce monsieur, parce qu'il a quand même des bonnes techniques de management.
Moi, j'ai quand même dirigé une entreprise où il y avait 834 femmes.
Ouais.
Il faut être absolument horrible, horrible avec les gens. C'est le seul moyen de faire tenir les gens tranquilles.
Il faut être horrible avec eux ?
Ah oui. C'est la nature humaine.
Ça fait du bien de tomber sur un spécialiste comme ça de la gestion d'équipe, de l'humanité. Il sait bien gérer ses troupes. Ben, ça ressemble un peu à l'ambiance qu'on a, nous, dans notre émission. Hein. C'est vrai que Charline, voilà, vous êtes un petit peu comme ça. Vous avez fait pression toute la journée sur Clara pour qu'elle écrive les trois questions qu'elle a posées à l'invité. Mais ça marche, faut dire. Non, mais c'est vrai que ça marche. Vous n'avez pas précisé question de qualité. Mais bon, Clara a bien bossé. On était à deux doigts du claquage quand même sur la fin. Alors, en ce qui concerne notre question du jour, revenons à notre sujet. Comment on fait si les parents n'ont pas les moyens.
S'ils n'ont pas les moyens, ils les trouveront.
Mais comment ils vont faire ?
Ne vous occupez pas. Ils se débrouillent bien pour envoyer leurs enfants pour faire des conneries.
Mais est-ce que ça, c'est pas un peu radical quand même ?
Mais si, mais il faut être radical parce que tout s'en va à l'eau.
Tout s'en va à l'eau. Voilà, encore une belle expression. Il y avait aussi tout va à vélo. Ça marche aussi pour les amateurs de cyclisme. Mais vous avez compris le principe de la radicalité, de la rigueur. Alors, bon, lui, il pourrait bosser au cabinet de Jean-Michel Blanquer, hein, sans souci, avec Samina Seri et Pascal le grand frère. Mais j'ai trouvé mieux un mec qui ferait passer Jean-Mimi carrément pour un bisounours.
Tout enfant turbulent est indésirable en France. Voilà, ils sont pas contents, ils s'en vont, ils quittent le pays.
Ah bah attendez, en France.
Ils sont pas français ou pas français.
Ah oui, carrément.
Mais carrément, on n'a pas besoin. Quand vous avez mal au ventre, vous allez chez le chirurgien. Il vous ouvre la vente, il voit qu'il y a un mal. Qu'est-ce qu'il fait le mal ? Il ne laisse pas dans le ventre, il le retire. Et on retire aussi, nous.
Voilà, mais alors attendez, parce que les enfants.
Pourquoi ?
Mais les enfants qui sont français et turbulents...
Les français comme les autres, monsieur, c'est une mauvaise éducation.
Mais on les envoie où?
Mais en Guyane, voilà.
Voilà, écoutez, vous me demandez des solutions, moi
avec
je vous
le capitaine Dreyfus.
Voilà, une déportation d'enfants en Guyane, hein, qui n'est donc pas en France, hein, d'après, voilà, d'après ce monsieur. Heureusement qu'on ne taxe pas la géographie défaillante non plus. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir des citoyens avec des idées en France. Alors, est-ce que lui-même a eu des enfants turbulents?
Moyennement, mais enfin, ils ont réussi, tous les deux.
Ah, ils ont été quand même turbulents un peu,
alors. Ma belle-fille. La turbulence, elle est bien, il est bien contrôlé, il n'y a pas de problème. Il faut la contrôler, la turbulence.
C'est de la turbulence bien contrôlée.
Absolument, voilà.
Mais si on les avait envoyés en Guyane?
Écoutez, il n'y a pas de problème, je serais parti avec eux.
Ok, écoute, désolé la Guyane, mais je crois qu'on vient de trouver une bonne solution, là. Hein. On envoie tous les gens indésirables et violents chez vous. Voilà, et puis j'espère qu'on pourra commencer par le gouvernement.
Guillaume Meurice, merci. Akli Tadjer, et lui, public qui n'est pas raciste ici. on ne sait pas très bien. Aux éditions, je vais prendre la terre. Akli Tadjer avec nous jusqu'à 18h. Et Clara Dupont-Mono a choisi le deuxième sujet.
Oui, le gérant de la pizzeria Casa Nostra à Paris, un restaurant attaqué par les terroristes du 13 novembre 2015, est jugé aujourd'hui pour avoir demandé une indemnisation au motif qu'il se trouvait dans son restaurant au moment de l'attentat, ce que l'enquête a contredit. Et au même moment, un autre homme est également jugé aujourd'hui pour s'être présenté comme rescapé de la tuerie du restaurant Le Petit Cambodge, ce que l'enquête a contredit. Les gars, vous n'auriez pas un tout petit peu exagéré ?
Assassin ! Au meurtrier ! Justice ! Justicielle ! Je suis perdu ! Je suis assassiné ! On m'a coupé la gorge ! On m'a dérobé mon argent ! Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où s'est acheté ?
Que ferai-je pour le trouver ?
Qui est-ce ? Arrête, rends-moi mon argent, coquin ! Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré.
Louis de Funès dans L'Avare. Alors, le premier, le gérant de la pizzeria, il l'a reconnu, il avait besoin d'argent. Bon, mais le second, c'est une autre histoire qui vous intéressera peut-être un peu plus, Akli Tadjer, c'est qu'il avait été reconnu victime de l'attentat du RER B en 1995. Et du coup, s'imaginer victime des attentats de 2015 était une façon de, entre guillemets, poursuivre son statut de victime. Victime absolument, qu'est-ce que ça vous inspire ? Akli Tadjer, j'ai été un peu lèche sur la question, mais là, le réel nous écrase un peu, donc qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire qu'il veut faire il veut en faire son métier, quoi.
professionnalisation, profession victime.
Victimier. Voilà, c'est ça que ça m'inspire. C'est un petit filou, quoi.
Oui, alors il y avait une dimension psychologique un peu plus forte que le premier, dont les motivations étaient clairement vénales.
Oui, Akli Tadjer, faites un effort, ça veut dire. Franchement, vous auriez pu voir la dimension psychologique du truc.
C'est une façon de se faire remarquer aussi. Peut-être que personne ne s'intéressait plus à son premier attentat. Il s'est dit, je suis passé de l'autre côté. Maintenant, il y en a un autre. Profitons-en, quoi.
Oui, vous avez choisi ce sujet.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est pas innocent. Vous avez un rapport avec l'idée de victime que nous trouvions très intéressant. C'est-à-dire que vous-même, vous avez été victime de racisme. À l'école, vous racontez dans votre livre que c'est un vieux prof de chimie qui vous tend des bouts de savon en vous disant « tu te décrasseras avec ça ». Et adulte, vous vous heurtez à « il n'est pas français » de la classe de lycéens, d'où votre livre.
Donc, et des menaces de mort
Et des menaces de mort.
Et des menaces de mort, grave. Hein, je me suis dit, sur la cinquantaine ou soixantaine de menaces de mort, il y a bien un dingue qui va... Il peut surgir, quoi.
Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, je suis victime vous voyez, l'idée du statut de victime, comment vous l'avez ressenti?
En fait, je ne le prends pas comme ça, parce qu'en fait, quand vous êtes, donc comme moi, hein, d'origine algérienne et tout, vous savez tout de suite votre statut dans la société. Vous savez, oui,
c'est
vous
comprenez.
C'est-à-dire que vous savez que vous êtes différent des autres tout de suite, par votre nom, par votre prénom, par votre histoire, par votre religion, vous savez que vous êtes autre. Donc, il faut faire avec ça. Donc, c'était pas un combat permanent, mais il fallait trouver à s'imposer avec ça. Et moi, ça m'a rendu plus fort. Ça m'a pas rendu victime. C'est pour ça que, quand je suis gamin et que ce prof qui nous parle de la Shoah, d'ailleurs, on disait pas la Shoah à l'époque, on disait le génocide, et tout, il ne pourra pas parler ça. Puis vraiment, il y avait de la tristesse. Et puis d'un seul coup, il vous balance un truc. Vous vous dites, mais jamais rien ne sert de leçon à personne, quoi. Quelqu'un qui a souffert, en plus, il s'en prend un gamin. En sixième, vous êtes un enfant, vous dites, mais il est complètement... Il était un peu tard, il faut dire. J'avoue qu'il n'était pas très clair non plus. Mais voilà, c'était... moi, je trouvais que c'était... ça, ça vous rend plus fort. Ce qui fait que quand bon, vous balance des vannes, vous aussi, vous avez des vannes. Vous n'êtes pas non plus le cucu à prendre que des coups. Vous en rendez au sous. Et moi, ça m'a rendu plus fort. Puis finalement, ça m'a permis de cette différence, de m'affirmer. Parce que parfois, c'est un peu compliqué. Quand vous disiez que vous êtes d'origine algérienne, ça véhicule tout de suite un conflit derrière. C'est pas innocent quand vous dites algérien en France, d'origine algérienne.
C'est chargé, vous voulez dire.
Voilà, ça pèse une tonne. Ouais, donc, voilà, ça m'a rendu plus fort.
Akli Tadjer, on va revenir à votre ouvrage qui est lié à cette question, qui n'est pas raciste ici, aux éditions Jean-Claude Lattès, lu par Juliette Arnoux.
Oui, alors, le titre de votre livre, c'est « Qui n'est pas raciste ici ?» Et cette question gagne haut la main le concours de « Viens, on transforme le dîner de Noël en trou d'obus ». Juste devant, elle gagne, juste devant « Dis, mamie, c'est bien milicien qu'il était, oncle Fred ». Pourquoi ? Pourquoi c'est la vôtre qui gagne ? Parce que l'oncle Fred est mort quand Valéry Giscard d'Estaing était un fringant jeune homme. Alors que le racisme, c'est comme Instagram, c'est mis à jour toutes les 10 minutes. Voilà. Alors finalement, cette question, qui n'est pas raciste ici, j'adore dire cette phrase, c'est plus qu'une question, pour moi, c'est un aggiornamento, soit une actualisation, une mise à jour des connaissances pour être plus en phase avec la société moderne. Et à mes yeux, c'est aussi une pièce de théâtre, respectant à la lettre les règles du théâtre classique, à savoir unité de temps, de lieu, d'action. L'unité de temps, quelques heures, unité de lieu, une salle de classe en province, unité d'action, un visiteur étranger vient rencontrer des élèves d'un coin de France pour mesurer qui n'est pas raciste ici et qui l'est et pourquoi et comment. Visiteur étranger par son nom, Akli Tadjer, c'est clairement pas François le Français, et qui en plus vient de la capitale et qui, pompon, écrit des livres, dont le sujet n'est pas Jeanne d'Arc ou les vaillantes révoltes vendéennes, mais la guerre d'Algérie, qui n'existe que parce qu'il fut un temps où l'Algérie, eh ben, c'était une colonie. Mais ce sujet-là n'intéresse pas les élèves. Pire, certains d'entre eux ne souhaitent pas lire des mots en arabe. Ambiance. C'est moins en un combat douteux que pour faire 2.0 un octogone, où les participants sont certes des enfants, mais des grands enfants à deux doigts du droit de vote et qui se pressent pas face aux visiteurs pour répondre oui ou merde, qui est raciste ici ? Il faut reconnaître que hors Rassemblement national-socialiste en Bavière parrainé par Jean-Marie Le Pen, c'est pas tant de la tarte que ça de répondre face aux autres « oui, je suis raciste ». Alors, la majorité de la classe, à la question « qui n'est pas raciste ici ?», lève la main. Mais vous, Akli, vous n'êtes pas dupe. Vous venez d'une génération où, dans certaines banlieues, les rouges, comme dans les chansons de Renaud, il y avait d'autres sortes de prédicateurs. À l'époque, ils n'étaient pas salafistes, ils étaient communistes. Et qui vous ont fait comprendre, et je vous cite, que passé un certain seuil de richesse ou de notoriété, votre couleur de peau s'efface. Et là, vous dites, on se fait zizouter. Savoureux néologisme. Ça, c'est pour la majorité de la classe. Et les autres, je vous cite encore, 8 élèves sont restés bras croisés, buste raide, tête haute. Ils me défient du regard, d'une certaine façon. Je les trouve courageux d'oser me braver ainsi. Voilà, à présent, l'intrigue se lance, les personnages sont tête nue. Discuter du racisme, de son rapport à l'autre, à l'étranger, à l'inconnu, avec des gens qui, en gros, pensent comme nous, ça a un nom, hein, prêcher des convaincus. C'est satisfaisant, mais ça fait pas une intrigue de pièce de théâtre. C'est un peu comme si Fed rentrait sur scène en disant qu'elle veut crever, et que Non, sa nourrice, lui filait direct une petite seringue de cyanure. Ça dure 10 minutes, c'est chiant. Alors que, avec vous, c'est vraiment du théâtre. Ça ferraille, ça bataille. Et vous, Akli, vous multipliez les perspectives en revenant sur votre propre parcours, votre propre jeunesse, cherchant désespérément le moyen de connecter avec les jeunes âmes récalcitrantes. Lorsqu'en vous en venez à vous souvenir de vos parents qui n'ont jamais quitté la France et qui ne sont donc jamais repartis vivre en Algérie, vous dites ceci. Il est des rêves qui ne se réalisent jamais et c'est heureux. Aimer leur pays d'origine comme leur inaccessible étoile. Inaccessible étoile, c'est une expression de Brel dans sa chanson La Quête. Il dit « sans force et sans armure, tenter d'atteindre l'inaccessible étoile ». Ne pas prêcher pour des convaincus, c'est rentrer dans l'octogone de la sorte, sans armes et sans armure. Si ça vous paraît bien téméraire, c'est surtout nécessaire. Et Akli Tadjer le rappelle en toute fin quand il dit « je sais que j'ai besoin d'eux, ces jeunes récalcitrants, pour comprendre le monde de demain ». Merci, bisous, merci.
Juliette Arnoux pour cette lecture de « Qui n'est pas raciste ici ?» aux éditions Jean-Claude Lattès, l'auteur Akli Tadjer, qui est en notre compagnie. Ah ouais,
c'est émouvant, c'est beau.
Mais c'est vous qui l'avez écrit.
Ouais, c'est vous qui l'avez lu.
Il est bien ce bouquin.
Ça a l'air. Hein.
Mais oui, ça doit être émouvant d'entendre quelqu'un parler de votre ouvrage, évidemment.
Mais je pense vraiment que ça ferait une très très bonne pièce de théâtre et qui pourrait même servir dans des... à faire jouer à des élèves.
Voilà, faut un casting d'une vingtaine de petits morveux et puis on est bon.
Nous en
Oui, un truc à penser.
Mais c'était troublant parce qu'il y a des gamins qui étaient complètement déstabilisés. Enfin, il y a beaucoup qui sont dans la provocation, puis il y a pas comme partout des moutons et puis ils sont très faciles à retourner parce que quand j'ai voulu les à un moment donné, on en est venu à parler du sport et en fait, ils étaient très fiers parce que l'équipe de France parce que ça flattait leur ego. Ça flattait leur ego. Et quand je leur ai dit, mais vous voyez, ils sont pas tous franchement des Français de souche et tout. Ils étaient là un peu trucs. Je dis, vous voyez, vous êtes fiers de cette équipe parce que elle vous représente. C'est le drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte un peu partout. Et moi, mon livre, vous avez pas voulu le lire parce que je m'appelle Akli Tadjer et ça raconte ça. Ils me disent, mais on vous connaissait pas, monsieur. Mais je lui dis, mais pourquoi Pogba et les autres, vous jouez au foot tous les soirs ensemble? Non, mais ils sont un peu perchés, quoi.
Ben oui, ils ont besoin qu'on leur tienne la main.
Voilà, et puis ils ont besoin de comprendre. Et puis mariner toujours. Mariner toujours les mêmes idées du matin au soir. Voilà.
Mais comment vous expliquez qu'on en soit là, que toute cette classe ait réagi comme ça? On cherche pas un bouc émissaire, mais on se dit c'est quoi? C'est les parents, c'est l'éducation, c'est le loisir, on allume la télé, on tombe sur Zemmour.
C'est tout ça. En fait, moi, ce que je crois, d'abord, ce qui m'a surpris, c'est quand je suis rentré dans cette classe, bon, souvent, j'essaye d'en faire une fois par mois, parce que pas non plus que ça vampirise tout mon temps, mais des classes à droite, à gauche. Et je suis rentré, ils étaient tous blancs. Et alors, j'ai eu cette réaction, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je pense qu'ils sont tous blancs. Est-ce que j'ai une réaction raciste? Parce que, non, mais c'est vrai que des... Et puis, ça m'a fait penser un peu au film des années 70 en France, où ils étaient tous blancs, où il n'y avait pas de...
La guerre des boutons.
Ouais, les choristes. Même le gardien du lycée était même pas métis, rien. Et je me suis dit, mais c'est étrange. Alors, donc, je suis rentré dans cette classe. Et puis, en fait, je me suis dit, mais comment je vais aborder le truc et tout. Ils ont l'air un peu sur la réserve, un peu timide. Je me suis dit, bon, je vais pas leur balancer un discours antiraciste, ça va rien faire. Ça va les gonfler, ça va me gonfler.
Suite dans le livre, qui n'est pas raciste ici, où vous racontez la rencontre. Et on signale aussi le porteur de cartable qui est à l'initiative, qui a fait exploser l'affaire. Akli Tadjer, vous connaissez l'émission? Ça vous dit de jouer avec nous?
Sketch de fin d'émission qu'on propose à chaque invité. Alors on a pris une vraie info, comme tous les jours. Cyril Hanouna aurait fait déprogrammer du Parisien un article concernant. L'article est tout de même disponible sur Internet, vous pouvez quand même aller le voir.
Vous pouvez retirer le conditionnel.
Oui.
Parce que c'est une vraie info.
Ah, c'est une vraie info, ça y est, ok, c'est bon alors. Okay. Donc il a mis la pression par SMS. Il a menacé d'appeler la proprio du journal. Alors, on a été voir comment ça s'est déroulé au sein de la rédaction du Parisien. Vous êtes le rédacteur en chef, Charline et moi sommes les journalistes. Ouf, c'est bon, j'ai enfin bouclé mon article là.
Oh, je crois que vous allez la boucler tout court. Hein.
Ah, y a un problème?
Attendez, j'ai reçu un SMS. Ferme ta gueule, le Parisien.
Ah bah voilà, encore un troll. Ah,
ils sont fatigants tous ces gens qui s'ennuient là.
Ah zut, hein, un autre message. Attention, je vais prévenir Bernard Arnault.
Mais attends, mais c'est qui ce mec là qui sait pas se défendre tout seul?
En plus, il croit nous faire peur avec son milliardaire du luxe là.
Ah non, on ne publie pas l'article.
Hein. Quoi?
Désolé, le sujet n'est pas bon.
Attends, le sujet, vous voulez dire Hanouna?
Non, mais vous croyez que j'aurais dû davantage axer sur son génie?
Mais mais vous pensez intéresser qui avec votre histoire de déménagement?
Bah au moins Stéphane Plaza.
Valérie Damidot.
Bon, excusez-moi encore un SMS.
Ah, mais c'est qui ce geek là?
Je connais personnellement Marlène Schiappa. Elle va vous troller le journal.
Non, pas Marlène Schiappa. Non, pitié. Non,
non
pas ça.
Mais c'est pas comme menace, on se laissera pas faire. Hein.
Ouais. Mais c'est quoi cette rébellion? C'est un touche pas à mon article, c'est ça?
Résistance!
Bon, j'ai un autre SMS. Je ne ferai plus rien avec le Parisien.
Ah non, alors là, c'est la cata, là. Si on peut plus parler d'Hanouna, on coule, là.
Bah, on peut plus en parler, parce qu'apparemment, c'est quand même notre nouveau rédacteur en chef.
Ah. Bah, enfin, vous devenez raisonnable.
Non, mais je savais pas, moi, qu'Hanouna, c'était l'héritier de Françoise Giroud.
Oh, on aurait tort de se priver du nouvel Albert Londres.
Bon, là, c'est fini, hein. Vous êtes complètement rassera, hein.
Ah, il a quand même un petit côté Donald Trump, non?
Bah, apparemment, il a déjà attrapé la rédaction par la chatte, hein.
Par la chatte? Il vient de m'écrire. Je vais vous foutre des nouilles dans la rotative.
Bon, hey, restons positifs, il connaît au moins le mot rotative.
Bon, alors on fait quoi avec le poutine de C8?
On s'écrase.
Ah, pas question.
Ah, je préfère encore les nouilles. Hein. Merci, Akli Tadjer.
Bravo, mec, bravo, il sait tout faire.
Donc je rappelle le titre de votre essai, Qui n'est pas raciste ici, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Le récit et les réflexions sur cette rencontre avec les lycéens du nord de la France qui avaient refusé de lire Le Porteur de Cartable parce que, sous prétexte que vous vous appelez Akli Tadjer, et au-delà de ça, donc toute l'histoire aussi de Pas de Vagues, de pas faire trop de remous autour de cette histoire qui a été médiatisée et qui mettait donc un lycée au centre de l'affaire. Merci beaucoup Akli Tadjer d'avoir passé cette heure avec nous. Merci beaucoup Constance, merci Juliette Arnaud, Clara Dupont-Monod et Guillaume Meurice. On va se retrouver demain avec Étienne Chatillier. Et Akli Tadjer, on vous laisse le mot de la fin à tous ceux qui ne sont pas noirs.
En même temps, moi je suis pas noir.
Non, mais moi je suis pas noir non plus. On abordera d'ailleurs ce qu'on disait des personnes handicapées noires et homosexuelles une autre fois, hein.